Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie, deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler des normes environnementales à respecter dans l'exploitation des minerais. En République démocratique du Congo, professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert des questions de l'environnement et risques naturels, sera notre invité. Et on va également accueillir M. Hervé Makoulou, journaliste d'investigation. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukwa sur la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Jody Daniel au micro. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Bien, nous parlons à présent des normes à respecter dans l'exploitation des minerais. Vous savez, l'exploitation minière a une incidence négative sur les écosystèmes, surtout dans les aires protégées de la RDC, du parc national de Maiko au parc national des Kahuzi-Biega, en passant par ceux de Garamba et Virunga, ainsi que la réserve de faune à Okapi. Les aires protégées sont aujourd'hui devenues une plaque tournante du trafic illégal des ressources naturelles. Quelles sont les normes environnementales à respecter dans l'exploitation des minerais? Est-ce que le code minier en vigueur en RDC autorise l'exploitation des minerais dans les aires protégées de la RDC? Professeur Jean-Pierre Ndjibou, vous êtes expert en question, expert dans les questions de l'environnement et risques naturels. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question est de savoir, est-ce que le code minier en vigueur en RDC autorise l'exploitation minière dans les aires protégées?
Merci pour la question. Je voudrais quand même spécifier que la loi numéro 18, donc 001 du 9 mars 2018, hein, modifiant et complétant la loi numéro 007 de 2002, donc du 11 juillet 2002, portant le code minier donc, actuel donc et, en RDC, et tient compte dans cette loi qui a été complétée, on a parlé des aires protégées. Alors maintenant, la question de savoir, est-ce qu'on autorise l'exploitation de minerais dans des zones protégées? La loi en elle-même ne l'autorise pas. Mais il y a d'autres dispositions qui font que le code minier, c'est-à-dire le mine, ont tendance d'avoir plus de l'importance sur le forestier, sur des réserves, sur des protèges, donc de réserves comme des aires protégées. Mmh. Alors à ce moment-là, c'est comme vous l'avez entendu plusieurs fois, parfois on veut faire des blocs pétroliers qui se retrouveraient dans des parcs et qu'on voudrait, pour des raisons économiques, voilà, exploiter parce qu'on a besoin des ressources. En réalité, mais la loi arrive à protéger certaines choses. Et voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là.
Bien, donc on retient que la loi n'autorise pas l'exploitation minière dans ces sites, dans ces aires protégées.
Exact. Ça, c'est la loi elle-même n'autorise pas.
N'autorise pas.
Mais il y a des dispositions qui font que l'économie a tendance à avoir du dessus sur les réserves naturelles, et ce qui fait que ceux qui ont utilisé, ceux qui ont la possibilité d'utiliser cette loi, et ils en passent outre. Hein, ils prennent des décisions au-delà de ce que la loi en elle-même ne dit pas.
Alors, si on se met à exploiter des blocs pétroliers au niveau des aires protégées, qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne comme conséquence sur le plan environnemental?
Il faut savoir déjà que si je crois que ce qui serait intéressant ici, c'est que nous puissions donner un petit mot sur cette petite définition d'une aire protégée. Hein. Donc, il s'agit tout simplement d'un espace géographique clairement qui est bien défini et bon et qui est reconnu et aussi consacré et géré par tout un moyen efficace qui peut être juridique ou autre, afin d'assurer à long terme, j'insiste beaucoup, à long terme, la conservation de la nature ainsi que le service écosystémique. Et on y associe automatiquement les valeurs culturelles qui lui sont associées, bien sûr, conformément à des différentes dispositions. Alors, ça, c'est un élément assez important. Donc, lorsqu'on sait que les aires protégées jouent un rôle important dans les services écosystémiques, c'est-à-dire dans le rythme normal, et que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de nourriture, ainsi de suite, au niveau de médicaments, alors on lui donne des valeurs. Donc, il y a aussi des valeurs économiques. Alors, lorsqu'il y a une exploitation minière et que ça se fait dans ces aires protégées, il y a des conséquences, certainement. Alors, le premier, donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va faire l'exploitation minière dans des aires protégées? La première chose, c'est le site. Lorsqu'on a choisi le site, c'est qu'il faut y avoir l'accès. Cette accessibilité oblige qu'il y ait des routes. Et les routes signifient qu'il y a une fragmentation de l'air protégé. Donc, on trace une route, on fragmente les aires protégées. Et lorsqu'on fragmente les aires protégées, on donne l'accessibilité, maintenant beaucoup plus facile, à ces aires protégées par le fait que les populations tout autour et d'autres prédateurs éventuellement finiront par accéder facilement à des aires protégées. Bien sûr, il y a d'autres conséquences qui sont des conséquences biologiques, effectivement, au niveau d'extinction des espèces, hein, et vous allez rendre compte que des espèces vont finir par disparaître par le fait qu'ils ne trouvent pas soit la nourriture en abondance, soit la présence de l'homme devient un danger, et soit également il n'y a plus d'accouplement de manière normale.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons des normes à respecter ou des conséquences de l'exploitation des minerais, l'exploitation des minerais dans les aires protégées. Charles, vous êtes à Lubumbashi, bienvenue à Kinshasa. Bonjour Charles, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour Monsieur Jody, ainsi qu'aux auditeurs. Mais Monsieur Jody, nous n'arrivons pas à comprendre dans ces pays, finalement, où sommes-nous? Nous nous rendons compte que les exploitants miniers sont devenus super puissants que même au-delà même de nos autorités. On ne parvient pas à comprendre. Voilà, de cette opportunité, permettez que je puisse demander au professeur que prévoit les codes miniers. Est-ce que les codes miniers autorisent d'exploiter aussi les minerais dans des cimetières? Pourquoi je l'ai dit? Il y a tout un cimetière de la Luano ici à Lubumbashi, situé dans la commune de Washi, qui est fermé. Et de là, plus de deux ans, il est fermé pour cette fait-là. On n'arrive pas à comprendre si les codes miniers les permettent. Et que dit la loi? Que dit nos autorités? Est-ce que nous allons demeurer à vivre toujours dans des pareilles? Voilà, nous sommes fatigués. Je vous remercie.
Bien, merci Charles. Bienvenue de Kinshasa. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
J'aimerais poser juste une question au professeur. Est-ce que lorsqu'on donne les permis d'exploitation des minerais, s'il s'avérait que l'endroit où on voulait exploiter les minerais, c'est une aire protégée, il faudrait au préalable désaffecter cet endroit-là, où on donne seulement les permis comme ça parce que les minerais priment sur les aires protégées, les gens peuvent facilement exploiter les minerais.
Bien, merci. Professeur, vous avez la parole.
Merci. Je crois qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans tout cela, comme je le dis. La loi en elle-même, comme on dit, la loi est impersonnelle, la loi en elle-même n'autorise pas, parce que il y a des aires protégées, il y a des zones sacrées, et la loi n'autorise pas que ça soit fait. Mais il y a des dispositions qui permettent à ce que, pour deux raisons, pour des besoins ou des raisons économiques, on s'en passe outre. Et là, ça entre dans les interprétations des uns et des autres, voilà, pour ceux qui sont dans la gestion, éventuellement, ceux qui gouvernent. Alors, ce qui est très important, je reviens à la question de notre ami Al-Rumbashi, parce qu'il parle de cimetière. Lorsqu'il parle de cimetière de la Rouachi, hein, et ce qui est très intéressant est de savoir que il y a eu concession minière, certes. Vous avez une entreprise X qui est dedans. Cette entreprise a pu, d'une manière générale, respecter la zone sacrée parce qu'il y a eu des études de faisabilité, il y a eu des audits qui ont été effectués, qui continuent à être effectués, il y a des rapports environnementaux qui continuent à être effectués. Mais malheureusement, il faut aussi comprendre qu'il y a l'aspect sociologique et qu'il y a des personnes qui continuent à aller enterrer le mort dans des cimetières qui cimetières déjà presque fermés éventuellement parce que ces cimetières sont dans la concession. Alors si les gens continuent à aller mettre des gens à aller enterrer dans une concession minière, et il ne faudrait pas qu'on voit beaucoup plus du côté de minier, hein, de faute du côté minier, les responsabilités sont partagées éventuellement. Donc il faut que la population comprenne que nous sommes aussi dans un site, qui est un site minier, et là où il y avait un cimetière qui existait, l'entreprise X n'exploite jamais de ce côté-là, ce qui est vrai parce que c'est vérifiable, mais l'entreprise garde l'endroit là tel que les anciens cimetières ou l'ancien cimetière, les anciennes tombes existent. Mais malheureusement, les gens continuent à avancer, à enterrer. Et là, c'était notre aspect. Mais c'est pas que la loi autorise. Et l'entreprise X dont on parle ici à Lubumbashi, j'étais le nom, je ne voudrais pas, et finit, respecte normalement cette disposition de cette zone qu'on appelle une zone sacrée, et éventuellement parce qu'il s'agit des cimetières pour question de respect. Alors, et notre ami de Kinshasa, il parle que lorsqu'on a le permis, éventuellement, quelqu'un peut se retrouver. On trouve que c'est l'air protégé ou c'est une zone de réserve. Et bon, est-ce qu'on est censé délocaliser les anciens de permis? Et c'est un peu complexe. Quand vous regardez le cadastre minier de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que même toute la ville, je prends juste par exemple le cas du Grand Katanga, et même la ville de Lubumbashi est dans des carrés miniers. Si vous prenez la cartographie du carré minier, ce n'est pas pour autant qu'on a délocalisé les gens pour qu'on fasse des exploitations. Bien que la loi peut, à un certain moment, permettre à ce que le minier a des priorités ou prédomine sur le fond, donc sur la forêt. Donc, ce qui est important ici est de savoir, nous sommes dans une situation, dans un pays, nous avons la loi, nous avons l'applicabilité, l'application de la loi. Est-ce que la loi est appliquée normalement? Mais si la loi n'est pas appliquée normalement, à ce moment-là, il faut dénoncer. Et c'est pourquoi il y a autant de sociétés civiles. La loi elle-même, elle a autorisé. Il y a des situations, il y a des cahiers des charges, il y a des sociétés civiles, il y a plusieurs organisations qui entrent en jeu afin de dénoncer ce qui ne va pas. Mais bien sûr, il ne suffit pas de dénoncer. Il faut dénoncer et qu'on soit écouté. Et si on n'est pas écouté, bon, ça ne change rien.
Ça ne change rien, voilà.
Voilà. Et la réalité est celle-là. C'est parce qu'on n'est pas aussi écouté. Mmh. Et que ceux qui gouvernent ont beaucoup plus besoin de l'argent. Et ceux qui vendent des concessions minières, des carrés miniers, qui attribuent des permis d'exploitation, ont besoin d'argent. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et qui passent outre certaines revendications et certaines exigences qui sont demandées par la loi elle-même.
Donc, professeur, aujourd'hui, quelles sont les aires protégées qui sont où on exploite déjà les minerais?
Bon, en fait, si on observe très bien, nous avons par exemple le Kahuzi-Biega, nous avons parfois aussi ici au Katanga, au niveau du plateau de Kundelungu, une partie évidemment qui est dans la réserve, qui est en train d'être exploité éventuellement. Et vous avez du côté où nous avons des Okapi, vous avez Maïko, le parc Maïko. Donc, et nous avons quand même quelques parcs et quelques réserves où nous avons ce genre de bêtises, s'il faut appeler ainsi. Mais il faut que la loi soit sévère. Je crois que c'est la meilleure des choses. Et on peut passer, vous passez aussi vers Virunga, vers Galamba, éventuellement. Mmh. Donc, et la faune d'Okapi, n'en parlons pas. Donc, actuellement, il y a même des Okapi en disparition. Et malheureusement, nous ne prenons aucune disposition pour le protéger.
Et l'impact sur l'environnement est énorme.
Oui, l'impact est énorme parce que si déjà nous avons une extinction d'une espèce emblématique comme Okapi, ça signifie que les vibrations, le bruit, la présence de l'homme et l'absence des spécimens, l'absence de nourriture, et donc il y a énormément d'effets biologiques. Et qui sont liés à cette fragmentation et qui est en train d'amener en péril l'existence de plusieurs espèces, en particulier cette espèce d'Okapi. Donc c'est énorme, évidemment, sur le plan biologique, sur le plan climatique également, parce que ça modifie les microclimats par le fait que cette fragmentation, cette exploitation de minerais et renforce l'effet de bordure, c'est-à-dire l'augmentation de la proportion de bordure ou de périmètre du fragment par rapport à sa superficie, et qui peut jouer sur le microclimat en termes de lumière, en termes de température, de vent, d'humidité, et voilà, donc accélère aussi le changement climatique dans le lieu considéré, et qui jouerait également un rôle dans la modification, la mutation génétique de certaines espèces et d'autres qui peuvent disparaître.
Bien, on va accueillir M. Malonga de Bandundouville. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'exploitation minière dans les aires protégées?
Ok, merci beaucoup Jody. Bon, je vais d'abord ajouter à répondre à ce que notre invité avait dit. De cette question que vous l'avez posée, quelles sont les aires qui sont violées ou bien exploité, mais en soi, d'abord, la République démocratique du Congo, c'est un patrimoine mondial. Dans son entièreté, ça doit être protégé. Tout. Bon, si nous commençons à spécifier seulement quelques aires qui se trouvent à l'intérieur de ce patrimoine mondial que tout le monde devrait protéger, et ceux qui sont considérés les puissants de ce monde, et les faibles, nous tous, nous pouvons se conscientiser et se mettre en synergie pour protéger cette aire internationale qui est la République démocratique du Congo. Mais si nous entrons à l'intérieur, entre nous, vous voyez que ce que l'invité vient de dire là, en tout cas, c'est magnifique, c'est la négligence de la praticabilité de la loi. Il y a la loi vraiment.
Mais la loi n'est pas du tout respectée. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui. Suivant le non-respect de cette loi, mmh, actuellement, qu'est-ce que le gouvernement pense pour cet abus ou bien cette conséquence grave qui, un peu plus loin, causait vraiment des grands problèmes pour nous d'abord, les habitants de ce pays, et aussi, ça peut engager aussi des catastrophes majeures dans le monde entier. Qu'est-ce que le gouvernement, notre gouvernement, prépare et pense à rétablir l'ordre sur le plan environnemental?
Bien, merci. Professeur Ndjibou, qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Malonga?
Je peux dire à M. Malonga, c'est la loi, le code minier a tout défini. Et nous pensons que ce qui a été défini a été fait par le gouvernement, c'est que c'est une implication des dirigeants de la RDC pour la protection de son espace ou de son environnement minier ou son espace de manière générale. Donc cela a déjà été fait. Bon, maintenant, dire qu'est-ce qu'on pense, mais c'est ce qui a été déjà fait. C'est la loi. Mais ceux-là qui ont fait la loi ne l'appliquent pas, ne l'utilisent pas en certains moments. Peut-être quand il s'agit d'autres intérêts, éventuellement. Et il n'y a pas longtemps, il y a une grande discussion. Je pense que la discussion est presque, on dirait, entre guillemets, finie. On entendait de sociétés civiles, des ONG, que ce soit au niveau national, international. Et par rapport au bloc pétrolier, je prends la partie de Chevroux, Kinshasa, je parle de côté Bandundu, plateau de Bateke, ainsi de suite, et puis du côté de l'Est. Et qu'on voudrait, effectivement, arriver à vendre parce que la République a besoin de l'argent. Et on a vu autant de hommes politiques, de dirigeants discuter et montrer que voilà, nous avons besoin de sous pour que nous fassions le développement. Il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Mais on a vu des ONG qui vous disent, mais attention, nous avons besoin de la protection, de la conservation de la nature, nous avons besoin de la protection. Et attention, il y a un risque environnemental beaucoup plus élevé lorsqu'on fait des exploitations de cette manière-là. Et on a vu même le gouvernement américain intervenir dans ce genre de choses. Donc ça signifie que ceux qui sont censés appliquer la loi, s'ils ne savent pas l'appliquer et ne l'appliquent pas, il est difficile de pouvoir leur demander qu'est-ce qu'ils pensent. Ils pensent exploiter, ils pensent avoir de l'argent. Et moi je pense que c'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent encore? Je ne sais pas, parce que ce qu'ils devaient penser est déjà pensé dans la loi. Et la loi venant du gouvernement. Et la loi est très claire, les codes miniers, qui a été vraiment bien modifié en 2018, et ces codes miniers qui a été promulgué vraiment a été bien complété. D'ailleurs, c'est un des combats avec beaucoup de multinationales, hein, parce que tout a été bien orienté pour l'intérêt de la République.
Voilà. Tout a été bien orienté pour l'intérêt de la République. Ceux qui sont censés faire respecter la loi ne la passent outre. On va accueillir Godet de Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Godet?
Ok. Vous savez, monsieur le journaliste, notre minerai au Congo, vraiment, le minerai, vraiment, est bénéficié par les hommes, les hommes autorités du Congo et les rebelles. Nous, les peuples congolais, nous ne bénéficions pas à 70%. Ce sont les autorités et les rebelles rwandais et les rebelles burundais qui bénéficient de cela. J'ai trois questions à poser à l'invité. Est-ce que l'invité peut nous dire, par exemple, les minerais du pétrole, on trouve ça dans combien de provinces dans notre pays? Deuxième question, est-ce que le gouvernement prévoit réserver un terrain là pour le futur de nos enfants qui vont survivre vers les années 2050-2040 pour qu'ils puissent aussi bénéficier des matières premières de notre pays? Est-ce que le gouvernement congolais...
Oui, mais oui, Godet, on ne parle pas seulement de l'exploitation, à qui vont bénéficier ces matières premières, mais on parle beaucoup plus de la protection de l'environnement, des sites protégés, des aires protégées, mais on va exploiter les minerais là-bas.
Est-ce que c'est protégé pour les futurs enfants? Est-ce que les matières, en question, les minerais en question, est-ce que c'est protégé pour les futurs enfants qui vont naître au Congo?
Voilà, est-ce qu'on pense au développement durable? D'accord, merci beaucoup. Okay. Professeur Jean-Pierre Dubon.
Ah oui, c'est évident, je ne peux pas non plus répondre, comme je le dis, à la place du gouvernement, mais et je ne suis pas membre non plus. Mais je voudrais simplement dire que la loi, le code minier, a bien spécifié les choses. Et on n'a pas que ça, il y a d'autres directives, il y a d'autres textes légaux au niveau de l'environnement et développement durable qui garantissent l'exploitation durable des ressources naturelles. Et mais alors, comme je le dis, je continue à persister, et il y a l'aspect du développement, entre guillemets, en République démocratique du Congo, il y a l'aspect de chercher de l'argent, mais à ces moments-là, on passe outre l'applicabilité, les recommandations environnementales. Alors, vous imaginez que nous avons plusieurs outils de gestion environnementale qui sont recommandés, évidemment. Donc, il y a l'évaluation environnementale, il y a la gestion des risques environnementaux, il y a les systèmes de gestion environnementale, il y a le plan de prévention de la pollution, il y a le plan de gestion environnementale, il y a les indicateurs de performance environnementale, il y a la surveillance et l'inspection des installations des gestions de l'environnement. Il y a la surveillance de l'environnement. Il y a tout ce qu'on a comme savoir écologique traditionnel connu. Il y a la planification des mesures d'urgence. il y a la formation, la sensibilisation à l'environnement. Alors, et il y a tout ce qu'on connaît sur la planification de la fermeture, donc, et les audits et environnementaux, la participation du public, vous avez des gérances de produits, la gestion adaptative, et il y a plusieurs éléments, donc les indicateurs, hein, la gestion des eaux, et tout ça est bien défini dans le code minier, et que ce soit pour maintenant, pour la fermeture, pour les générations futures. Mais malheureusement, il faut que ça soit appliqué. C'est pourquoi le minier, quand tu viens, il paye, même jusqu'à ce qu'ils se disent, lorsqu'ils vont finir d'exploiter pendant 25 ans, voici ce qui est prévu pour le site qui a été exploité. Comment on doit remettre le site après donc fermeture. Tout est bien planifié. Et d'ailleurs, actuellement, on ajoute même un élément assez important qui est au moment de l'exploration, de la planification et tout ça, et qui est lié au changement climatique et à l'adaptation, parce que chaque entreprise minière est en train de produire autant de dioxyde de carbone. De quelle manière cette entreprise est en train de gérer de manière durable son site? Et il y a déjà des travaux qui se font et des discussions pour voir comment on va élaborer une taxe carbone, hein, pour toutes les entreprises, parce que chaque entreprise produit et des dioxydes de carbone, et il faut quand même que ce soit payé pour l'adaptation et l'atténuation. Alors, tous ces éléments-là sont bien définis, mais malheureusement, on ne les applique pas. Hein, et dans un pays où on développe une notion, je dirais bien, et pousser axé sur l'argent, la corruption éventuellement, c'est délicat d'appliquer la loi, parce que cette loi est toujours violée en fonction des intérêts. Donc, les générations futures, c'est bien préservé. Mais on ne peut pas répondre à la place, et ce que nous voyons sur terrain ne nous montre pas réellement que nous prévoyons pour les générations futures. Donc ça, c'est au niveau de l'application de la loi. Et voilà ce que je pouvais quand même dire à notre ami. Mais alors, lorsqu'il parle du bloc pétrolier, là, vous avez l'est de la RDC, le lac Albert, vous avez dans le plateau de Virunga, vous avez l'ouest, l'ouest du côté du plateau de Bateke, et vous avez le centre même de la RDC, parce qu'on parle le centre de la RDC comme une ancienne mer, hein, et là où il y a la forêt équatoriale, c'est une ancienne mer, et sur le plan géologique, bien sûr, on n'entrait pas dedans. Donc, et la République, de manière générale, est pleine de toutes les ressources possibles. Mais est-ce qu'il faut exploiter toute la République pour le faire? Les États-Unis, c'est les premiers en cuivre, en or, en tout, mais les États-Unis n'exploitent pas ces minéraux. Ce sont des minéraux qui sont gardés pour des générations futures. Ils ont du pétrole, mais ils continuent d'abord à prendre le pétrole ailleurs, le cuivre ailleurs, l'or ailleurs. Bon, ils ont anticipé, c'est ça l'affaire de la, c'est ça même la gestion de l'État. Ils ont anticipé pour eux. Quand les autres n'auront plus de pétrole, n'auront plus, et nous allons commencer à exploiter, nous le vendrons. Nous vendrons du pétrole, nous vendrons de l'or, nous vendrons du cobalt et tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est la manière de gérer. On peut avoir toutes sortes de ressources, mais c'est notre gestion qui doit être efficace et durable, et une gestion qui respecte le droit de l'homme et qui respecte également les générations futures, afin qu'elles vivent en paix avec de mêmes richesses que nous avions trouvées.
Alors, si aujourd'hui on n'est pas capable d'interdire l'exploitation minière dans les aires protégées, est-ce que il y a au moins une façon d'exploiter tout en respectant les normes environnementales, professeur?
Bon, ce que je voudrais ici épingler, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà l'air protégé, et comme je le définis, ça signifie que c'est une conservation. L'air protégé a des services écosystémiques. Hein, ce sont des services liés à l'eau, à la qualité de l'air, et à la, aux nutriments, et donc et tout ce que vous avez, les cycles de carbone, les cycles de l'eau, les cycles de soufre, et tout. Donc vous avez, ce sont des réserves. Et ces réserves, il n'y a pas que le service écosystémique X bien déterminé, mais vous avez également tout ce qui est biologique, hein, les espèces. Donc, lorsqu'on protège, ça signifie qu'on conserve.
Mmh.
Alors, si on conserve, on n'a plus le droit de pouvoir de tuer. C'est comme je le dis, que lorsqu'on on commence une exploitation dans le site, dans l'air protégé, on l'ouvre. Donc, on ouvre une cité, on doit construire les usines, on doit construire les infrastructures, il y a des passages de véhicules qui peuvent facilement aussi provoquer d'accidents d'animaux qui traversent d'une route à l'autre ou d'un îlot à l'autre. Donc, cette fragmentation diminue complètement, provoque la disparition et l'extinction des espèces, que ce soit de la faune, que ce soit de la flore. Alors, il n'y a pas moyen de le faire de manière que je dirais qui soit durable, parce qu'il s'agit de l'exploitation minière, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Alors, est-ce qu'il est nécessaire que ce soit seulement dans les zones protégées? Parce que tout le pays n'est pas protégé. Nous avons quelques aires protégées, donc on a quelques aires protégées, gardons ces quelques aires protégées, cherchons à pouvoir trouver d'autres sites d'exploitation de minerais ou de pétrole à des personnes, à d'autres sites. Alors, s'il n'y en a pas, essayons de développer d'abord d'autres sites. Et vous imaginez que depuis que nous avons commencé à faire l'exploitation de minerais, on continue à vendre des concessions minières. Mais qu'est-ce que la République a? C'est ça la question fondamentale. Aujourd'hui, regardez comment on doit aller chercher le maïs sans envie en Afrique du Sud, alors qu'on a la terre, alors qu'on a une terre fertile. Donc toutes ces questions-là sont nécessaires. Est-ce qu'il faut nécessairement s'élancer dans l'exploitation de minerais, tout simplement, ou il faudrait revaloriser l'autre aspect, qui est l'aspect de l'agriculture, qui est une richesse importante, parce que les grands riches, les milliardaires du monde, ce sont des fermiers. Alors, pourquoi ne pas développer cet aspect? Donc, je pense que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas nécessaire de pouvoir faire des exploitations dans le site minier, et il n'y a pas, même les normes, ce sont les normes qui sont édictées par la loi, effectivement, mais ces normes-là ne peuvent pas aider, parce qu'une fois on ouvre un site, et on le rend accessible, et le danger, comme je le dis, il est et sur le plan biologique, et sur le plan géomorphologique, et sur le plan géologique, et sur le plan climatique. Donc, ça serait intéressant de pouvoir, tout simplement, ne pas faire ces genres d'exploitation.
Professeur, dans les sites, est-ce qu'il y a déjà eu un mouvement des plaidoyers de votre part, des organisations de la société civile, pour interpeller les dirigeants par rapport à ce problème?
Évidemment, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de cris, beaucoup de plaidoyers faits par des sociétés civiles, par des scientifiques, par des ONG, que ce soit au niveau national ou international. Et ça se fait, et parfois, on est considéré comme cible, parce que il faut savoir que le mine, il s'agit de l'argent. Ceux qui sont dans l'argent, ils n'aiment pas qu'ils soient embrouillés par d'autres personnes, et ils considèrent que les défenseurs de l'environnement ou défenseurs de ceux qui s'occupent vraiment de la protection du développement durable pour les générations futures deviennent pour eux des ennemis, et vous devenez des cibles éventuelles. Et voilà, ainsi va notre très beau pays, le Congo.
Alors, alors, à ce moment-là, quelle est la solution? Il n'y a pas d'autre solution. Donc, on s'avoue vaincu et on laisse faire les choses, professeur?
Non, on continue. On continue, c'est-à-dire, nous continuons à travailler, nous continuons à dénoncer ce qu'il y a dénoncé, nous continuons, quel que soit le risque éventuel, ça fait partie du métier, en fait, hein, le risque et la conception de choses. Mais il y a toujours des gens qui comprennent, il y a toujours de l'influence, nous travaillons avec... On fait le plaidoyer au niveau national, on fait le plaidoyer au niveau international, et parfois, les niveaux internationaux peuvent jouer un rôle important sur le gouvernement, même si nous ne pouvons pas peut-être directement influencer certaines décisions, mais on influence le partenaire extérieur qui influence les décisions. Donc, nous continuons à faire le travail, à faire le plaidoyer, à faire des conférences, à faire des discussions. C'est comme vous venez de me contacter éventuellement quand nous sommes en train de changer sur ce dossier-là. Ça fait partie de la sensibilisation, ça fait partie de l'information, ça fait partie également du plaidoyer.
Bien, nous parlons des normes environnementales à respecter dans l'exploitation. Bon, la grande question est de savoir, faut-il exploiter les minerais dans les aires protégées? Le professeur nous a dit tout à l'heure que non, la loi ne le permet pas, mais aujourd'hui, ceux qui sont censés faire respecter la loi la passent outre, et c'est une situation déplorable. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Vous êtes sur OKAPI, vous écoutez le magazine OKAPI Service. Nous recevons aujourd'hui le professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert dans les questions de l'environnement et risques naturels. Et nous parlons aujourd'hui de l'exploitation minière dans les aires protégées. Professeur, un auditeur a posé la question tout à l'heure de savoir s'il faut peut-être déplacer les aires protégées au profit de l'exploitation minière. Est-ce que cela est envisageable?
Non, c'est pas envisageable, parce que quand on parle des aires protégées, on voit un site géographique bien déterminé. Ce sont des conditions physico-chimiques bien définies. Ce sont des facteurs écologiques qui ne sont déterminés que sur cet endroit-là. Alors, si vous les déplacez, c'est-à-dire vous modifiez complètement, hein, vous le modifiez, on ne peut pas trouver un site soit en Belgique, soit aux États-Unis, où on peut amener les OKAPI et les voir vivre, et sinon la plupart des scientifiques auraient déjà fait ça, et ces OKAPI ne pourront jamais tenir dans ces conditions-là. Donc on peut adapter, mais ça ne marchera pas. Donc ils n'ont que leur site qui est tout à fait spécifique là. Et c'est comme ici au Katanga, où on a une espèce qu'on appelle Omaniostrum katangensis, qui est l'espèce végétale qui ne pousse que sur le sol de mine, mais uniquement au Katanga. Alors que les mines de cuivre, donc vous avez le cuivre dans d'autres pays, aux États-Unis, partout, en Afrique australe, mais vous ne trouverez pas cette espèce-là. Alors, vous ne pouvez pas enlever, il y a des gens qui font des milliers de kilomètres de l'Australie juste pour venir voir la petite espèce qui pousse, qui est tout à fait emblématique. Mmh. Et donc, ce sont des espèces sur des listes rouges et qui doivent être protégées éventuellement et qui peuvent faire aussi ce qu'on appelle le tourisme écologique. Donc, ce qui est beaucoup plus important, et ce n'est pas de pouvoir déplacer, parce que les environnements, donc l'environnement des aires protégées, c'est cet environnement, sa configuration géologique et géographique et climatique et biologique qui a permis, et cette configuration a permis à ce qu'on puisse classer l'endroit et qu'il y ait des espèces bien définies et qu'on puisse classer l'endroit comme l'aire protégée pour des raisons comme nous l'avons cité éventuellement, ça peut être culturel et des services écosystémiques et aussi et des raisons de garder des espèces de manière permanente qui vivent dans cet endroit-là. Mmh. Donc je pense que ce n'est pas faisable et une fois ce fait, ce n'est plus maintenant l'air protégé.
Voilà, ce n'est plus l'air protégé. On va accueillir Géry de Bandundouville. Bonjour Géry. Géry, vous êtes en ligne depuis Bandundouville, bonjour. Géry Mido, vous êtes là? Bien, on va le relancer tout à l'heure. Géry Mido nous appelait de Bandundouville pour intervenir par rapport à cette question. L'exploitation minière dans les aires protégées. Aujourd'hui, professeur, par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le cas des OKAPI. Il y en a encore combien aujourd'hui? Est-ce que là où se trouvent les OKAPI, il y a l'exploitation minière déjà qui est faite?
Je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est ce qu'on sait que nous sommes. C'est une espèce en diminution, bien sûr. Et que je n'ai pas de chiffres exacts de nombre de copies qui nous restent. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a l'exploitation se fait, vous avez l'exploitation de l'or, et vous avez également et l'agriculture et surtout aussi l'instabilité liée à
l'insécurité.
À la guerre, à l'insécurité. Voilà.
Donc si on ne veille pas, on risque de perdre complètement cette espèce.
Oui, pas simplement cette espèce, c'est aussi les chimpanzés que nous sommes en train de on a eu plusieurs guerres et une grande quantité d'ailleurs des chimpanzés étaient obligés de migrer, aller vers l'autre côté du Rwanda où il y avait la paix. Et puis finalement, c'est resté le patrimoine du Rwanda parce que c'est bon, c'est tout à fait normal, ça n'a pas été volé. Donc c'est comme des humains hein, qui fouillaient aussi. Ouais. Alors il n'y a pas que des okapis, nous avons aussi ces animaux qui sont tout à fait emblématiques pour la RDC, l'Afrique du Grand Lac, et qui devaient être protégés. Bon, voilà. Malheureusement.
On va accueillir Jerry Mido, il est là. Bonjour Jerry.
Oui, bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'exploitation minière dans les aires protégées?
Bon, tel que je peux prendre l'exemple, nous ici à Bandundu, même pas à Bandundu, on prend l'exemple par exemple des chimpanzés ou des okapis qui se trouvent quelque part là. Bon, à peine on vient de suivre sur les réseaux sociaux l'espèce de chien qu'on est belge au Congo. Donc l'espèce de chien qui a mordu l'enfant et l'enfant a été tué. Est-ce que ce sont aussi des espèces des animaux qu'on peut, j'ai dit, héberger quelque part pour ne pas trouver de grands problèmes dans notre République démocratique du Congo? Parce que ces espèces de chiens-là, ça se trouve souvent dans des pays, je peux dire occidentaux. Là. Mais au Congo, on commence à héberger ces espèces de chiens-là. L'espèce de chien qui a tué l'enfant, là, à peine, ça peut passer même 2 ou 3 mois passés. Là. On ne peut pas les héberger dans un jardin comme ça pour les protéger, pour protéger d'autres espèces, là, bien pour protéger la vie des hommes. C'est ça ma petite préoccupation.
Et garder cette espèce de chien dans une aire protégée.
Voilà, oui, ou bien dans une aire protégée comme ça. Voilà.
Bien, merci. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, en fait, ça n'a rien à voir avec les aires protégées, parce que le chien en question, ce sont des animaux qui ont connu beaucoup de mutations génétiques. Hein, ce sont de mélanges qui sont effectués par des hommes, hein, et donc et enfin de produits de chiens qui sont très féroces et qui ont la capacité avec de pouvoir s'attuer. Voilà, donc de particularités liées par la modification génétique des animaux par les hommes. Donc ça n'a rien à voir avec les aires protégées ou le mettre dans l'air protégé. Ils finiront toujours par faire des gaffes. Et puis c'est pas leur endroit efficace.
C'est
les aires protégées, c'est-à-dire ce sont des aires qui sont tout à fait d'abord naturelles. Ce ne sont pas des jardins zoologiques, non, où on doit garder ce genre de choses. C'est les espèces qui sont là de manière naturelle et on ne l'intègre pas à autre chose, mais on arrive juste à protéger tout en sachant qu'ici, il y a telle espèce, il y a tel animal et voilà, et qui sont là des siècles et des siècles et qui jouent un rôle ou qui ont une fonction culturelle assez particulière et où leur protégé a pratiquement une fonction écologique et assez importante dans la région. Donc ça n'a rien à voir avec ça.
Aujourd'hui, à part les okapis et les chimpanzés, quelles sont les autres espèces à protéger ou qui doivent être protégées?
Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a, nous avons des okapis, on a des chimpanzés, il y a d'autres espèces, hein, peut-être je vais vous faire un peu amuser. Et vous pouvez vous rappeler, il y a des insectes qu'on ne voit plus, ou qu'on voit très rarement, mais qui vivaient dans la ville de manière permanente, hein, avec nous. Je vais vous donner les cas des libellules. Je ne sais pas si vous le voyez à Kinshasa. Alors vous voyez, libellules qui étaient ces insectes qui pouvaient vraiment et qui étaient de manière permanente, qu'on voyait dans des villes, sont en train de disparaître. Je vais vous donner l'exemple du papillon. Je ne sais pas si vous le voyez à Kinshasa de manière... voilà. Mais il y a dans des zones où ces papillons, il y en avait des papillons de toutes les couleurs, très agréables, jaunes, bleus. Et aujourd'hui, vous rendez compte que cette espèce et certaines variétés sont en train de pouvoir et disparaître progressivement. Donc, au niveau des espèces, nous avons plusieurs espèces, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des insectes, et au niveau des plantes également, qui sont sur la liste rouge de la conservation de la nature, et qui sont en train de disparaître progressivement. Je crois que je pourrais vous donner une liste complète prochainement.
Voilà, il y a plusieurs espèces comme ça qui disparaissent à cause de l'activité humaine.
Oui. Alors,
donc aujourd'hui, les intérêts économiques l'emportent sur la protection de l'environnement. Et vous avez dit, professeur, que vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez continuer à faire le plaidoyer jusqu'à ce que les choses seront rétablies dans l'ordre.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une évidence. Et les plaidoyers, on doit faire. On continue à le faire et c'est comme on dit, le bon combat. Et il y a deux gens, nous disons aux gens attention, et nous devons nous mettre à faire de culture éventuellement, mais les gens n'avaient pas toujours compris. Et aujourd'hui, tout le monde se lamente. Si aujourd'hui on fermait toutes les frontières, vous imaginez, la République démocratique du Congo ne fabrique même pas du papier, même le papier hygiénique, on n'en aura plus. Donc vous imaginez que nous sommes dans une situation où il faut apprendre maintenant que notre avenir dépend de nous-mêmes, de notre prise en charge, parce que nous avons cette terre fertile et nous avons la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, avec le changement climatique qui est en jeu, et on constate tout simplement que l'Afrique australe est en train de subir beaucoup de mouvements, beaucoup de cyclones, beaucoup de tempêtes, et on a eu beaucoup de précipitations cette année, et les saisons agricoles ont été perturbées, et il y a une diminution. Alors les pays qui sont sérieux, plus sérieux que nous, ont essayé de bloquer le céréal pour des raisons de sécurité alimentaire dans leur pays. Alors finalement, ça devient un oulala dans notre pays. Parfois, ça devient même un combat politique. Alors que ça fait rire le scientifique. Alors, ce qui est beaucoup plus important, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que nous pouvons faire et afin de produire. Alors, il faut écouter. Il faut écouter la voix du scientifique, il faut écouter les praticiens, il faut écouter les chercheurs. Ils savent ce qu'ils font, ils ne font pas de la politique, mais ils disent les choses telles que ça se situe. Mais il ne faut pas que l'intérêt politique puisse rendre tout le monde sourd ou tout le monde agressif. Donc ce qui est important pour nous, c'est le bien de la République et que tout le monde puisse être heureux dans son propre pays, comme on dit que c'est un pays riche. Que ça soit un pays riche pour les hommes et pour les ressources naturelles et également pour le sol. Oui, aussi un pays riche pour les gens qui réfléchissent.
Bien, et certains disent que dans tout ce que nous faisons, par rapport à toutes les actions que nous posons aujourd'hui, on doit toujours tenir compte, penser aux générations futures.
Exact, c'est une obligation parce que nous avons hérité, nous tous. Avant que nous soyons là, et il y a autant d'années, il y avait des gens qui ont existé 100 ans avant, 200, 1000 ans avant. Donc nous l'avons hérité avec ces ressources, avec ces richesses. Mais nous ne pouvons pas nous prévaloir et être à mesure de tout exploiter parce qu'il s'agit de nous et de ne pas penser qu'il y a des gens qui vont vivre 1000 ans, 100 ans, 50 ans, 1000 ans, 2000 ans après nous. Donc ça, c'est une obligation que nous devons faire. C'est une obligation.
Bien, professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert dans les questions de l'environnement et risques naturels, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'exploitation minière dans les aires protégées. Il ne reste plus qu'à vous dire merci évidemment et à vous souhaiter une excellente journée.
Merci, bonne journée.